Tous les trois arbres étaient suspendus une lanterne.
Vers midi, Lorenza nous rejoignit sur la terrasse, souriante. Et elle annonça qu'elle avait trouvé un train magnifique qui passait par ici à 12h30, et avec un seul changement, elle serait rendue à Milan dans l'après-midi. Elle demanda si nous l'accompagnions à la gare. Belbo continua à feuilleter les notes et dit « Il me semblait qu'Aglié t'attendait toi aussi. Il me semblait même qu'il avait organisé toute l'expédition rien que pour toi. » « Tant pis pour lui, » dit Lorenza. « Qui m'accompagne ?» Belbo se leva et nous dit « J'en ai pour un instant et je reviens. Après, nous pouvons rester ici encore deux petites heures. Lorenza, tu avais un sac ?» J'ignore s'ils se dirent autre chose pendant le trajet vers la gare. Belbo revint une vingtaine de minutes après et se remit à travailler sans faire d'allusion à l'incident. À 2 heures, nous trouvâmes un restaurant confortable sur la place du marché, et le choix des plats et des vins permit à Belbo d'évoquer encore d'autres événements de son enfance. Mais il parlait comme s'il citait la biographie d'un autre. Il avait perdu l'heureuse veine narrative de la veille. Au milieu de l'après-midi, nous prîmes la route pour rejoindre Aglié et Garamond. Belbo conduisait vers le sud-ouest, tandis que le paysage changeait peu à peu, de kilomètre en kilomètre. Les coteaux de là-bas, même par un automne bien avancé, étaient petits et doux. Maintenant, par contre, au fur et à mesure que nous roulions, l'horizon devenait plus large, bien qu'à chaque tournant augmentassent les pics où se retranchaient quelques villages. Mais entre un pic et un autre s'ouvraient les horizons infinis. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, comme observait Diotalevi, qui verbalisait judicieusement nos découvertes. Ainsi, tout en montant en troisième, on apercevait à chaque courbe de vastes étendues au profil ondulé et continu, qui, aux confins du plateau, s'estompaient déjà en une brume presque hivernale. On eût dit d'une plaine modulée de dunes, et c'était de la moyenne montagne. Comme si la main d'un démiurge inhabile avait pressé les cimes qui lui avaient semblé excessives, les transformant en une gelée de coins, tout en gibbosité. Jusqu'à la mer, qui sait, ou jusque sur les pentes de chênes plus âpres et tranchées. Nous arrivâmes dans le village, où au bar de la place centrale, nous avions rendez-vous avec Aglié et Garamond. À la nouvelle que Lorenza n'était pas avec nous, Aglié, s'il en fut contrarié, ne le fit pas voir. « Notre exquise amie ne veut pas communiquer avec d'autres les mystères qui la définissent. Singulière pudeur que j'apprécie, » dit-il, et ce fut tout. Nous poursuivîmes notre route, en tête la Mercedes de Garamond et derrière la Renault de Belbo, par Vaux et collines, jusqu'à ce que, tandis que la lumière du soleil déclinait, nous fussions en vue d'une étrange construction perchée sur un coteau, une manière de château du XVIIIe, jaune, d'où se détachaient, ainsi me sembla-t-il de loin, des terrasses fleuries et arborées, luxuriantes malgré la saison. Lorsque nous parvînmes au pied de la côte, nous nous trouvâmes sur une esplanade où étaient garées quantité de voitures. « C'est ici qu'on s'arrête, » dit Aglié, « et on poursuit à pied. » Le crépuscule désormais devenait nuit. La montée apparaissait dans la lumière d'une multitude de torches allumées le long des pentes. C'est curieux, mais de tout ce qui se passa, depuis ce moment-là jusque tard dans la nuit, j'ai des souvenirs à la fois limpides et confus. J'évoquais l'autre soir dans le périscope, et je sentais un air de famille entre les deux expériences. « Voilà, me disais-je, maintenant tu es ici, dans une situation qui n'est pas naturelle, étourdie par une imperceptible odeur de moisissure, de vieux bois, pensant être dans une tombe ou dans le ventre d'un vase où s'accomplit une transformation. Si seulement tu sortais la tête hors de la cabine, tu verrais dans la pénombre des objets qui aujourd'hui te paraissaient immobiles s'agiter comme des ombres éleusiennes au milieu des vapeurs d'un sortilège. » Et il en était allé ainsi, le soir au château. Les lumières, les surprises du parcours, les mots que j'entendais, et plus tard certainement les encens, tout conspirait à me faire croire que je rêvais un rêve, mais en une forme anormale, telle qui est proche du réveil quand il rêve qu'il rêve. Je ne devrais rien me rappeler. En revanche, je me rappelle tout, comme si ça n'était pas moi qui l'avais vécu, et que je me le sois fait raconter par un autre. Je ne sais pas si tout ce dont je me souviens, avec une si confuse lucidité, est ce qui s'est passé, ou ce que je désirais qu'il se passât, mais ce fut certainement ce soir-là que le plan prit forme dans notre esprit, comme volonté de donner une forme quelconque à cette expérience informe, transformant en réalité imaginée cette imagination que quelqu'un avait voulu réelle. Le parcours est rituel, nous expliquait Aglier tandis que nous montions. Ce sont des jardins suspendus, les mêmes, ou presque, que Salomon de Caus avait conçus pour Heidelberg. Je veux dire, pour l'électeur palatin Frédéric V, au grand siècle Rose-Croix. Il y a peu de lumière, mais il doit en être ainsi, parce qu'il vaut mieux entrevoir que voir. Notre amphitryon n'a pas reproduit avec fidélité le projet de Salomon de Caus, mais il l'a concentré dans un espace plus étroit. Les jardins de Heidelberg imitaient le macrocosme, mais qui les a reconstruits ici n'a fait qu'imiter le microcosme. Voyez cette grotte rocaille, décorative sans nul doute, mais de Caus avait présent à l'esprit l'emblème de l'Atalanta Fugiens de Michael Mayer, où le corail est la pierre philosophale. De Caus savait qu'à travers la forme des jardins on peut influencer les astres, parce qu'il y a des caractères qui, par leur configuration, miment l'harmonie de l'univers. « Prodigieux !» dit Garamond. « Mais comment fait un jardin pour influencer les astres ?» Et il est des signes qui ploient les uns vers les autres, qui se regardent les uns les autres et qui s'embrassent et contraignent à l'amour. Et ils n'ont, ne doivent avoir, forme certaine et définie. Chacun, selon ce que dicte sa fureur ou l'élan de son esprit, expérimente des forces déterminées, comme il arrivait avec les hiéroglyphes des Égyptiens. Il ne peut y avoir de rapport entre nous et les êtres divins, si ce n'est à travers des sceaux, des figures, des caractères et autres cérémonies. Pour la même raison, les divinités nous parlent par songes et énigmes, et ainsi de ces jardins. Chaque aspect de cette terrasse reproduit un mystère de l'art alchimique, mais malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de le lire, et notre hôte pas davantage. Singulier dévouement au secret, vous en conviendrez. Chez cet homme qui dépense tout ce qu'il a accumulé au cours de sa vie pour faire dessiner des idéogrammes dont il ne connaît plus le sens. Nous montions, et de terrasse en terrasse, les jardins changeaient de physionomie. Certains avaient forme de labyrinthe, d'autres figures d'emblèmes, mais on ne pouvait voir le dessin des terrasses inférieures que des terrasses supérieures, si bien que j'aperçus d'en haut le contour d'une couronne et beaucoup d'autres symétries que je n'avais pas pu remarquer quand je les parcourais, et qu'en tout cas, je ne savais pas déchiffrer. Chaque terrasse, pour qui se déplaçait au milieu des haies, par effet de perspective, offrait certaines images, mais revue de la terrasse supérieure procurait de nouvelles révélations et même de sens opposés, et chaque degré de cette échelle parlait ainsi deux langues différentes au même moment. Nous aperçûmes au fur et à mesure que nous montions de petites constructions. Une fontaine à la structure phallique qui s'ouvrait sur une sorte d'arc ou petit portique, avec un Neptune piétinant un dauphin, une porte avec des colonnes vaguement assyriennes et un arc de forme imprécise, comme si on avait superposé triangles et polygones à des polygones et chacun des sommets était surmonté par la statue d'un animal, un élan, un singe, un lion.
« Et tout ça révèle quelque chose ?» demanda Garamond.
« Indubitablement, il suffirait de lire le Mundus Symbolicus de Piccinelli, qu'Alciat avait anticipé avec une singulière fureur prophétique. Le jardin entier est lisible comme un livre. » Ou comme un sortilège. Ce qui est au fond la même chose. Vous pourriez, si vous le saviez, prononcer à voix basse les mots que dit le jardin. Et vous seriez capable de diriger une des innombrables forces qui agissent dans le monde sublunaire. Le jardin est un dispositif pour dominer l'univers.